Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Algérie, évidemment, est-elle vraiment en train de tourner la page Bouteflika ? Question, après l'annonce de son renoncement hier, les Algériens doutent. Quid de la transition promise ? Quid du camp Bouteflika qui a la main sur tout le pays ? C'est ce que nous verrons dans un instant. Theresa May de retour de Strasbourg avec des concessions sur son accord, nouveau vote décisif à Londres aujourd'hui. Nous y serons également. Déshériter ses enfants pour faire tourner l'économie. Proposition choc d'un think tank libéral, c'est ça aussi le grand débat. Comme cette demande pressante de services publics plus proches, elle apparaît très nettement dans le rapport annuel du Défenseur des droits qui sera votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Jacques Toubon, effectivement, on détaillera ce rapport annuel. Vous pouvez intervenir, dialoguer avec Jacques Toubon, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Et quand les citoyens ne peuvent plus venir à l'administration, c'est l'administration qui vient à eux. Reportage dans ce journal dans un camping-car de services publics dans l'Aisne. À la une également un Messi nommé Zidane au Real Madrid, les 30 ans du WWW, le World Wide Web, et le dernier blié avec Depardieu et clavier sur les écrans.
France Inter.
Abdelaziz Bouteflika a-t-il vraiment renoncé au pouvoir ? Certes, il ne briguera pas de cinquième mandat après 20 ans de présidence, comme le demandaient les milliers d'Algériens qui manifestent depuis 15 jours. Mais en reportant sine die la présidentielle du mois d'avril, il prolonge de fait son quatrième mandat. Et personne ne sait à quoi va ressembler la transition qu'il promet. Alors la joie des premières heures hier soir dans les rues d'Alger a rapidement laissé la place aux doutes. Les doutes de Samia, par exemple, enroulée dans son drapeau algérien.
On était toujours contre ce régime qui nous a, il nous a condamné, on peut dire ça, il nous a condamné pendant 20 ans au plus, donc on était toujours déçus. On est content, oui, on est content, mais personnellement, si je peux dire un truc, c'est que je ne crois pas trop à tout ça. Je pense que tout ça, c'est juste une pièce théâtrale politique. C'est juste si toujours, ça tombe toujours dans leurs intérêts, parce que c'est pas normal. Juste comme ça, ils se retirent. On a réclamé le départ de Bouteflika, c'est vrai, et il est parti, mais pas son clan. Donc on n'est pas vraiment satisfait à 100%. On attend toujours le mieux, voilà. On espère toujours du bien pour notre pays et pour notre peuple, voilà.
Bonjour Leïla Berhato.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli le témoignage de Samia hier soir dans le centre d'Alger. Dans ces mots, Leïla, on entend que ça n'est pas la grande libération attendue. Est-ce que ça veut dire que la mobilisation des Algériens va continuer ?
Oui, dès hier, dans la soirée, de nouveaux appels à manifester ont été lancés, d'abord pour aujourd'hui, pour les étudiants, mais aussi pour jeudi et pour vendredi, pour toute la population. On trouve désormais sur les réseaux sociaux un mot d'ordre de contestation du quatrième mandat et demi ou du mandat 4+. Abdelaziz Bouteflika n'a pas parlé de son départ et ça, les Algériens l'ont bien entendu. Et puis surtout, s'il renonce à un cinquième mandat et s'il annule l'élection présidentielle, le président algérien a fait des propositions de transition similaire à celle qu'il avait déjà faite le 3 mars dernier. Donc ici, il y a le sentiment que peut-être ce recul n'en est pas vraiment un. Ce qui est flou, c'est que ces propositions n'entrent pas dans le cadre de ce qui est prévu par la Constitution algérienne, mais surtout, pour les Algériens, il faut du changement à la tête de l'État. Or, nommer Noureddine Bédoui et Ramtane Lamamra à la tête du gouvernement, eh bien, c'est plutôt un signe de continuité.
Leïla Berhato, merci. En direct d'Alger, il y a donc, on l'entend, un grand flou sur cette transition annoncée. Et cette question majeure, désormais, qu'on va se poser avec vous, Valérie Crova, la question du camp Bouteflika derrière le président, vu le poids qu'ont ces hommes, Valérie, dans le système algérien, on doute qu'il soit prêt à lâcher le pouvoir.
Ben oui, parce qu'en 20 ans de pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a tout verrouillé. Il contrôle l'armée avec des généraux qui lui sont fidèles et qui lui doivent leur carrière, comme le chef d'état-major, les services de renseignement, les médias publics, l'Assemblée nationale, les syndicalistes à travers l'Union générale des travailleurs algériens, dont le secrétaire général est un soutien indéfectible du président, ou encore le forum des chefs d'entreprise, l'équivalent du MEDEF local. Il est dirigé par un proche de la famille Bouteflika, Ali Haddad, qui incarne le visage des oligarques algériens, enfin tous les barons d'affaires qui ont des intérêts communs, en premier lieu des intérêts financiers qu'ils auront sans doute du mal à abandonner car tous ont largement profité des fruits de la rente pétrolière.
Alors face à ce système Bouteflika, Valérie, si alternance il y a, qui est en mesure de l'incarner ?
C'est toute la question. Des personnalités émergent comme le diplomate Lakhdar Brahimi, ancien médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie. Il pourrait organiser la future conférence nationale chargée de superviser la transition et qui fixera la date de la prochaine élection présidentielle. L'ancien ministre des Affaires étrangères qui a retrouvé sa place, Ramtane Lamamra, est également en bonne place. Il a été nommé vice-premier ministre, un poste qui n'existait pas auparavant. Ce diplomate de renom a développé des réseaux en Afrique et aux Nations Unies où il a travaillé, ce qui lui confère un certain prestige en Algérie. Reste une inconnue de taille. Que va faire l'opposition qui a été incapable jusqu'à présent de se mettre d'accord sur une candidature unique? Eh bien, la prochaine échéance présidentielle pourrait donc l'obliger à se structurer.
Valérie Crova, merci. Autre pays, autre contestation, le Venezuela, et de nouvelles manifestations aujourd'hui à l'appel de Juan Guaido, alors que le pays vit une gigantesque panne de courant depuis vendredi. Une attaque fomentée par les États-Unis, selon le président Maduro. Washington qui rappelle tout son personnel diplomatique en poste au Venezuela ce matin face à l'aggravation de la crise.
8h06, Florence, 3 jours et 3 votes décisifs en Grande-Bretagne.
À Strasbourg, hier soir, Theresa May a obtenu d'ultimes concessions sur le volet irlandais du Brexit, point de blocage de son accord sur lequel les députés se prononceront aujourd'hui. Mais c'est toujours non, dit le chef de l'opposition Jeremy Corbyn, qui appelle à voter contre. Et si c'est ce non qui l'emporte, le Parlement se prononcera demain sur une sortie de l'Union sans accord, puis sur un report du Brexit jeudi. Reporté ou pas, parmi ceux qui redoutent une sortie de l'Europe, il y a les chercheurs britanniques. Et c'est pour s'en prémunir de cette sortie, Antoine Gignot, que vous nous révélez ce matin cette décision de la plus célèbre université de Londres, UCL, qui vient de créer une adresse fantôme en Irlande pour sa branche médicale. Il en va de sa survie au sein des programmes de recherche européens.
C'est une adresse discrète à Dublin qui abrite la toute nouvelle filiale de l'Université de Londres et de l'hôpital UCLH. Tout a été fait en urgence il y a 3 semaines, explique Hélène Cadieu, qui supervise les protocoles de sécurité liés à la recherche médicale.
Ça s'appelle UCL Research Limited, qu'ils ont créé au mois de février en fait.
C'est quoi? C'est une coquille vide?
C'est une boîte postale. Et ça nous permet de fonctionner, ça veut dire qu'on existe dans un pays, la communauté européenne. On a essayé de trouver des solutions pendant 2 ans, de voir, on attendait, et puis bon, on pensait pas en arriver là. L'université a engagé un avocat, voilà, qui leur a donné le conseil de faire ça.
Car l'enjeu est colossal. Les programmes européens comme Horizon 2020 ont apporté aux chercheurs britanniques 2 milliards d'euros ces 5 dernières années. Leur interruption menacerait directement plusieurs établissements au Royaume-Uni et par ricochet sur le continent.
En Allemagne, la haute autorité, au mois de février, a communiqué avec nos partenaires, les hôpitaux et les laboratoires avec lesquels on travaille, et leur a dit qu'il fallait une adresse en Europe ou alors ils allaient arrêter le projet. La réalité, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'Europe. On fait tellement partie de l'Europe qu'on ne peut pas en sortir.
Et les scientifiques ne cachent pas leur principal souhait, un arrêt pur et simple du Brexit. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Une mise à jour, voilà ce que Boeing concède après 2 crashs de ses 737 MAX. Le logiciel de l'appareil sera revu, comme le demande l'Agence fédérale de l'aviation américaine. Mais à la différence de la Chine, de l'Indonésie, de Singapour, désormais les compagnies américaines continuent à faire voler leur nouveau Boeing, l'avion le plus vendu au monde. Renault, Nissan, Mitsubishi, 3 patrons réunis à Tokyo en ce moment, avec le remplaçant de Carlos Ghosn, Jean-Dominique Senard, pour un conseil d'administration de Nissan auquel Ghosn n'a pas eu l'autorisation de participer. Les 4 hommes doivent annoncer un nouveau système de gouvernance pour l'alliance, soit la fin de la domination du grand patron de Renault sur les 3 marques.
Il est 8h09, Florence. Grand débat, suite et fin.
Et à quelques jours de la fin du concours Lépine, des propositions pour faire changer la France, on s'arrête ce matin sur cette note d'un think tank libéral, Génération Libre, qui propose, accrochez-vous, de supprimer dans l'héritage la part obligatoire qui doit revenir aux enfants, Hélène Philly.
Le débat autour des successions ne doit pas être purement fiscal. Voilà le point de départ du think tank, d'autant plus si l'on entend le ras-le-bol exprimé ces derniers mois, insiste Maxime Zbahi, directeur général de Génération Libre.
C'est quand même assez paradoxal de voir qu'à ce ras-le-bol fiscal, la réponse qu'on a, c'est de rajouter des nouvelles taxes ou des nouveaux impôts. Il faut passer au-dessus de ça. Le débat qu'il y a eu sur les droits de succession et sur l'héritage, il s'est un peu trop concentré sur la défiscalisation, sur les seuils, sur l'abattement, sur les droits de succession. répartition.
Génération Libre suggère de laisser chaque citoyen libre de répartir son patrimoine comme il l'entend, quitte à ne rien léguer à ses enfants, ce qui est impossible aujourd'hui. Laisser le libre choix favoriserait les dons, remettrait de l'argent dans l'économie, veut croire le think tank.
On parle beaucoup de répartition des richesses et d'inégalité de patrimoine. Si on permet justement à cette richesse de pouvoir être utilisée de manière beaucoup plus libre, donc c'est-à-dire de manière beaucoup plus large, à ce moment-là, on peut avoir une répartition des richesses qui bénéficie à plus de gens et qui n'est pas uniquement contrainte par la famille.
Le secrétaire d'État Gabriel Attal lui-même voudrait voir évoluer cette protection des héritiers. Une mission parlementaire a déjà été lancée sur ce sujet. Les conclusions sont attendues en mai.
Et c'est une des réclamations lancinantes du grand débat « Rendez-nous les services publics ». Réclamations qui sont aussi arrivées en nombre sur le bureau du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui sera l'invité de France Inter dans quelques minutes. Il a été saisi 96 000 fois l'an dernier et très souvent sur l'éloignement des services publics. C'est pour ça qu'une communauté de communes de l'Aisne, Thiérache, Sambre et Oise fait tourner en ce moment un camping-car spécial à la rencontre des habitants. Ils sont une soixantaine à Crupilly. Reportage signé Julie Pietri.
Le camping-car est là, garé sur un bas-côté face à la mairie tout en briques de Crupilly. Le village semble désert, pourtant au bout de quelques minutes, Paul toque à la porte et s'installe près du siège conducteur.
C'est pour une rénovation de maison de campagne.
Émilie, chargée de mission, plus habituée aux questions sur les retraites, les impôts ou la CAF, tente de l'orienter vers le bon interlocuteur.
Je vous mets l'adresse.
Oui, s'il vous plaît.
À l'arrière du camping-car, dans l'espace salon, Angélique reçoit elle aussi des habitants que la petitesse des lieux ne rebute pas, au contraire.
On se sent beaucoup plus en sécurité pour discuter des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien.
Les gens viennent vous voir pourquoi, Angélique ?
Internet, faut pas se leurrer, on a encore des gens qui n'ont pas Internet, n'ont pas d'ordinateur. Comment je vais faire? On crée les boîtes mail et on fait leur dossier sur internet avec eux. Il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas au dossier, du coup on les accompagne vraiment à remplir le dossier. On a déjà eu une dame qui dit « je ne vais pas demander ma retraite, c'est trop long, j'en ai marre ».
Qu'est-ce qui manque ici en termes de services publics sur ce territoire?
Tout.
François-Xavier Favaudon, directeur général des services de la communauté de communes Thiérache, Sambre et Oise.
Pas de transport en commun, pas de train, pas de bus. D'où l'idée d'aller au plus près de la population pour leur éviter de se déplacer et de leur offrir un service au pied de leur porte.
En 2 ans, l'équipe du camping-car a traité près de 2500 dossiers et de nombreux coups de fil aussi d'autres territoires intéressés par le projet.
Voilà, les services publics, les réclamations contre les violences policières, il y a tout ça dans le rapport du défenseur des droits que vous trouverez détaillé sur franceinter.fr. Et voilà qui intéressera justement le défenseur des droits, ces deux grands-mères qui veulent sauver leurs petits-enfants détenus dans un camp en Syrie. Ils ont 2 et 5 ans, leurs parents djihadistes sont morts, alors les grands-mères viennent de saisir la justice administrative pour les faire rapatrier. Lui finira sa vie en prison, le français Mehdi Nemmouche, condamné à perpétuité cette nuit pour l'attaque du musée juif de Bruxelles. Il n'aura à aucun moment regretté son geste ni montré une once de compassion pour ses 4 victimes.
8h13, Florence, le retour de Zidane.
Sauveur du Real Madrid qu'il avait quitté il y a moins d'un an au top et qu'il retrouvera en bon état, il faut le dire. Rappeler pour relever le niveau, ce sera tout à fait différent de sa première session d'entraîneur.
C'est le plus gros défi, bien sûr, c'est le plus gros défi, forcément, de toute façon, parce que c'est une deuxième fois, c'est quelque chose, de dire est-ce que tu risques pas, machin, non, enfin, je regarde pas ça du tout. On voit pas ça du tout, parce que si tu regardes ça, je serais pas revenu. Maintenant, il y a autre chose, ça va plus loin que le simple fait de revenir, et je suis animé par autre chose, et c'est un deuxième projet qui se met en place pour moi, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, et je vais essayer de relever le défi, parce que j'en ai envie profondément, c'est juste ça, c'est ça qui m'anime. J'ai envie de nouveau entraîner.
Voilà, Zinedine Zidane au micro d'Amaya Cazenave. 30 ans que nous y avons accès, Nicolas, et que nos vies ont changé. WWW, le World Wide Web, a 30 ans tout rond. Aujourd'hui, l'âge de l'Internet grand public. La moitié de l'humanité, depuis, est connectée. Et parmi les pionniers français, car il y en a, voici le taulier, comme on l'appelle, Jean-Michel Billot, 73 ans, qui a rencontré Thibault Lefèvre. C'est lui qui a créé le tout premier groupe français d'échange et de réflexion autour des nouvelles technologies.
Sur le bureau de Jean-Michel Billot, un ordinateur, évidemment, et un appareil connecté pour mesurer la pression artérielle.
152,90, c'est un peu beaucoup.
Les résultats sont transmis à son téléphone, puis à son médecin, car le taulier a toujours été à la pointe des dernières technologies.
La première fois que je suis allé me balader sur le web, j'ai été saisi d'un vertige. Je démarrais à 7h30 du soir un vendredi d'octobre 94, parce qu'au bout de 3 heures, j'étais dans une jardinerie de néo-zélandaise, dans un champ de rhododendron. Vous aviez accès à tout le savoir humain. Ce truc-là allait changer le monde.
Une prise de conscience immédiate que tout le monde n'a pas eue. Au milieu des années 90, Jean-Michel Billot traverse l'Atlantique. Il rencontre alors tous les grands du web, comme Steve Jobs ou Bill Gates.
Bill disait que l'Internet, un d'entre nous lui avait posé la question, « What do you think about Internet ?» Good question. Bon, à l'américaine. Et il nous avait dit, Internet, non, c'est aucune chance, c'est pour les étudiants boutonneux. Donc même Bill Gates n'avait pas la vision du monde qu'il faut.
Bill Gates, qui s'est depuis bien rattrapé, son navigateur Internet Explorer a dominé le marché à la fin des années 90, avant de progressivement laisser la place à Mozilla Firefox, puis à Google Chrome.
Enfin, voilà un homme qui tourne en numérique, comme tout le monde aujourd'hui, mais il a des kilomètres de bandes derrière lui, les valseuses Buffet froid, trop belle pour toi. Bertrand Blier revient ce mercredi avec Convoi exceptionnel, son dernier film au casting exceptionnel, Depardieu, Clavier, Guy Marchand, Sylvie Testu, Audrey Lamy. 8 ans qu'il n'avait pas tourné. C'est dire si ça vaut le coup d'y aller, Eva Bétan.
Qui a dit qu'on devait être sage à 80 ans? Pas plus qu'à 35 ou 50, Bertrand Blier ne l'est et c'est une bonne nouvelle. Amoureux de l'histoire crédible, carré, passez votre chemin. Les autres, bienvenue dans le monde du jeu, de l'artifice qui, mine de rien, n'est pas superficiel. Gérard Depardieu et Christian Clavier dans les rues, semblant incapables de prendre une décision en attente que quelqu'un leur apporte de nouvelles pages du scénario pour savoir ce qu'ils doivent faire. Il faut obéir au scénario, même quand il leur donnera pire, mais déjà cavaler dans les rues alors que, dit Depardieu, j'ai un excédent pondéral. Et bien sûr, on sourit. De même, le voir pousser un caddie nous renvoie à une scène culte des valseuses. Le cinéma qui montre ses coutures dans une forme d'abstraction. Mais nous allons quand même être touchés tout en appréciant le bon mauvais esprit de Bertrand Blier. Peut-on accepter que nos vies soient régies par un scénario aussi tyrannique que peut l'être un scénario de cinéma? Et si nous désobéissions? La morale du film et de la vie est peut-être dans cette réplique. Si vous avez un bon copain, votre vie n'est pas gâchée, à moins que ce soit dans la recette que donne Gérard Depardieu du poulet en cocotte à l'ail nouveau.
Voilà, faut-il obéir au scénario? Il faut en tout cas remercier Eva Bétan.
Mais oui, merci à vous aussi Florence Paracuelos.